enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
À jamais tu es fidèle, à jamais tu es grand, à jamais tu es bon. L'eût été la bonté de l'Éternel. Je ne serai certainement peut-être pas sur la terre des vivants. En tout cas, je ne serai pas dans la maison de l'Éternel en train de célébrer. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta fidélité, pour ton amour qui dure à jamais. Non, dans les saisons d'épreuve, ton amour n'a pas disparu. Dans les saisons d'affliction, ton amour n'a pas été retranché. Dans les saisons de difficulté, Seigneur, tu n'as pas tourné le dos. Et tu demeures à jamais fidèle. Et ce matin, dans l'assemblée des fidèles, je proclame ta fidélité. Je proclame que, Seigneur, les cieux et la terre passeront, mais tes paroles que tu as prononcées sur nos vies, sur ton Église, sur ce pays, sur l'Église de Jésus-Christ, lorsque tu as dit « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas », lorsque tu as dit que ta postérité possédera les portes de ses ennemis, je confesse qu'à jamais cette parole s'accomplira. Les cieux et la terre passeront, mais tes paroles ne passeront pas, Seigneur. Ta parole est puissante, Seigneur. Ta parole est comme un marteau qui fait éclater le roc. Ta parole est comme un feu dévorant. Ta parole est comme le bruit des grandes eaux. Ta parole est comme, Seigneur, le son d'un éclair. Ta parole est extrêmement redoutable. Et à cause de ta parole, c'est au son de ta parole que les montagnes tremblent, que les océans mugissent, au son de ta parole, Seigneur. Et ce matin, nous voulons acclamer ta parole et dire bienvenue à ta parole. Bienvenue à Christ, la parole de Dieu. Nous ne sommes pas là pour un homme, nous sommes là pour te célébrer. Je n'ai pas dit pour applaudir, j'ai dit pour acclamer la parole, celle qui donne la vie, celle qui donne la paix. La parole qui est envoyée dans ma vie. Et cette parole m'a guéri. Cette parole a changé la solitude en plénitude. Les tribulations en triomphe. La détresse en allégresse. C'est la parole qui le fait. Et c'est une semence. La parole de bénédiction, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants pour ta parole, Seigneur. Tu sauves par ta parole. Tu guéris par ta parole. Tu libères par ta parole. Tu élèves par ta parole. Tu transformes par ta parole. Voilà pourquoi je ne sous-estime pas ta parole. Mais je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Parce que ta parole est la vie. Béni sois-tu. Honneur à toi, Majesté. Honneur à toi, Seigneur. Ce matin, nous voulons te donner tout l'espace. Ce matin, délivre-nous, déchire nos cœurs et pas nos vêtements. Illumine les yeux de nos cœurs, Seigneur. Nous ne voulons pas seulement, Seigneur. Nous ne voulons certainement pas, Seigneur, être chatouillés ou être distraits. Nous voulons être transformés. Nous sommes arrivés beaucoup trop loin pour repartir en arrière, Seigneur. Nous voulons aller dans le lieu très saint, Seigneur. Et nous voulons vivre ta gloire sur la terre. Et nous te bénissons de ce que, Seigneur, ça sera manifesté par la puissance de ton esprit. Parce que tu envoies ta parole, Seigneur. Et ta parole, Seigneur, sera faite chair dans nos vies et dans notre histoire. Merci, Seigneur. Nous nous soumettons à toi et nous te disons, prends toute la place, Saint-Esprit. Glorifie Jésus. Révèle Jésus. Expose l'état de nos cœurs. Et que ta bonté encore ce matin nous amène à la repentance. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Vous asseoir dans sa présence encore en acclamant l'Éternel. Il a dit, si vous ne savez pas battre les mains, des fleuves battront les mains. Vous ne savez pas acclamer, je dirai au fleuve, acclamez le Seigneur. Ah, je n'ai pas l'intention de laisser un fleuve ou une mer acclamer plus fort que moi. Comme je n'ai pas l'intention de laisser un oiseau louer Dieu à ma place. Parce qu'il a dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Blessed be the name of the Lord. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Nous devons atteindre ce niveau de maturité. Nous n'avons pas besoin d'être excités par quelqu'un pour commencer à célébrer Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à ça? On va atteindre ce niveau de consécration. Oui, écoute-moi, quand je viens prier, que tu sois là ou que tu ne sois pas là, je bénirai l'Éternel. Que tu pries ou que tu ne pries pas, je bénirai l'Éternel. Nous avons encore des mentalités de bébé. Dieu m'a parlé encore, oh Seigneur, ça m'a brisé. Mais vous manquez de consistance, vous manquez de poids, vous manquez de ferveur, vous manquez Parce que nous pensons souvent qu'il suffit juste de prier une fois et puis c'est fini. C'est pas vrai. Il y a des sujets pour lesquels tu dois prier jusqu'à ce que tu sentes dans ton cœur que là, Dieu t'a dit, ah mon fils, tiens, prends. Parce qu'en réalité, Dieu veut te donner. Le problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'appelle le diable qui essaie toujours de créer des interférences, mais il est vaincu au nom de Jésus. Mais je vous assure, nous devons vraiment apprendre à élever le niveau. Vraiment apprendre à élever le niveau. On n'y est pas du tout. Nous jouons avec Dieu, nous jouons avec la prière. Et Satan vient et puis fait des dégâts, et puis on est là, on regarde et on dit, pourquoi tu permets? Ce n'est pas la faute à Dieu. Ce n'est pas, il n'y est pour rien. Il n'y est pour rien. Et quand on dit acclamer le Seigneur, il y en a, il est là. Tu n'as aucune idée de la puissance de l'acclamation. Tu n'as aucune idée de la puissance de la célébration. Amen. Ok. Bon, je me calme. Parce que je sens en moi une sainte colère. Je sens en moi une sainte colère. Dieu m'a beaucoup parlé hier. Beaucoup parlé. Par rapport à la France, par rapport à l'Europe, par rapport à... Et quand j'ai entendu... J'ai dit, Seigneur, permets-nous vraiment de ne pas rester là où nous sommes. Il y a des choses, si nous ne faisons pas, il y a un prix, si nous ne le payons pas, c'est nos enfants qui vont souffrir. Si nous ne nous levons pas, si notre génération ne se lève pas pour dire à Satan, non, je suis désolé, là tu ne triompheras pas. Là on ne te laissera pas faire. Si nous ne nous levons pas, ce sont nos enfants qui vont payer le prix. Et surtout, c'est la sorcellerie. Si nous laissons la génération future, si nous laissons nos enfants souffrir, à cause du fait que nous n'avons pas levé les mains, nous n'avons pas intercédé, nous n'avons pas prié, nous n'avons pas tenu nos positions. Si nos enfants souffrent, je vous assure, c'est de la sorcellerie, c'est de la méchanceté. Et moi j'ai dit, Seigneur, je ne laisserai pas mes enfants être affectés par le diable juste parce que j'aurais été statique et paresseux. Quelqu'un qui a dit hors de question. Non, dis hors de question. Et Dieu m'a interpellé, il m'a montré. J'ai dit, non Seigneur, ça va changer. Il faut que ton peuple se lève. Et pour ça, il veut un peuple d'adorateurs, un peuple fervent. Un peuple solide, un peuple qui ne lâche pas. Et tout le mois de décembre, il m'a déjà dit ce qu'il faut faire. Je prie qu'il accomplisse ce qu'il a prévu de faire. Amen. Nous avons vu, nous sommes dans la quatrième semaine, nous avons vu pendant 3 semaines, nous avons fait une pause la semaine dernière, nous sommes toujours sur le thème de la bénédiction de l'Éternel. Dis à ton voisin, tu dois être béni de la bénédiction de l'Éternel. Non, dis-lui, tu dois manifester la bénédiction de l'Éternel. J'ai dit, dis à ton voisin, tu dois manifester la bénédiction de l'Éternel. Si ton voisin ne veut pas te parler, tourne-toi vers l'autre voisin et dis-lui, tu dois manifester la bénédiction de l'Éternel. David a dit, je suis dans la joie quand on peut dire, allons à la maison de l'Éternel. Je parle à la maison de l'Éternel avec la tête. C'est pas grave, si tu es venu ici comme ça, il n'y a pas de problème. Tu vas être délivré en sortant d'ici. Que quelqu'un dise, Amen. Nous avons vu que la bénédiction de l'Éternel. Aujourd'hui, je vais aujourd'hui vous parler d'un sujet que vous allez peut-être pas aimer. Donc, en sortant d'ici, il y en a qui vont m'en vouloir. Vous allez voir que ça va nous délivrer. Je vais vous parler de comment identifier et briser les malédictions. Il y a quelqu'un ici, tu transportes trop de malédictions. Maintenant, il faut que ça change. Et vous n'avez pas idée, hein. Ça a l'air subtil. La plupart des chrétiens ne se rendent pas compte qu'ils transportent des malédictions parce que simplement ce qui est malédiction, ils appellent ça épreuve. Ils trouvent que c'est normal. Il y a des choses qui ne sont absolument pas normales et qui doivent changer dans nos vies. Il faut qu'en 2007, même pas en 2007, il faut que dès maintenant, que quelqu'un dise dès maintenant. Parce que vous devez comprendre, moi, vous savez, les histoires je suis d'accord pour dire que notre calendrier n'est pas le calendrier de Dieu. Dieu ne fonctionne pas avec le calendrier, Dieu fonctionne avec les saisons. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Ça veut simplement dire qu'en réalité, il y a des choses pour Dieu qui peuvent changer tout de suite, pas forcément au 1er janvier 2007, mais qui peuvent changer tout de suite si tu changes tout de suite. Amen. C'est tout. Il n'y a pas besoin d'attendre 2007 pour commencer à changer. En toi, il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas manifestées. Et ça ne se manifestera pas parce que c'est 2007. Ça se manifestera parce que tu feras une pression sur toi-même pour faire sortir de toi ce que Dieu a mis en toi. J'ai commencé à écrire 2 livres depuis plusieurs mois jusqu'à aujourd'hui et 2 livres ne sont pas encore finis. Pourquoi? Pas parce que les 2 livres attendaient 2006 ou 2007, parce que les 2 livres attendaient juste que j'aille chercher Dieu et que j'aille m'isoler dans un coin et laisser sortir de moi ce que Dieu a mis en moi. Il y a des choses, le futur n'est pas devant toi, il est en toi. Que quelqu'un dise Amen. Je répète, ton futur, ton avenir n'est pas devant toi. Arrête de regarder devant. Regarder devant, ça veut dire regarder le calendrier et dire, oulala, le temps passe, oulala, les années passent. Le futur n'est pas devant toi, il est en toi. Il faut que tu le manifestes, c'est tout. Nous avons vu, il y a 2 semaines, nous avons parlé de la bénédiction de l'Éternel et je vous ai dit comment À quoi est-ce que tu avais droit? Nous avons dit que le but de la bénédiction, c'était de manifester la gloire. S'il n'y a pas la bénédiction, il ne peut pas y avoir la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? S'il n'y a pas la bénédiction prononcée par Dieu, activée par Dieu, la bénédiction activée, prononcée par Dieu, activée par toi-même, il n'y a pas la gloire de Dieu. Dieu envoie toujours une parole. Dieu annonce toujours à l'avance ce qu'il doit faire. Dieu annonce toujours à l'avance ce qu'il va faire. Et lorsqu'il annonce en avance ce qu'il va faire, il envoie une semence, il envoie une parole. Et lorsque cette parole est gardée dans un cœur, elle travaille, elle finit par manifester sa gloire. Elle finit par manifester ce qu'il est. Elle finit par manifester ce qu'il a dit. Et nous avons vu que il y en a qui ont la bénédiction de l'Éternel, mais chez qui la bénédiction n'est pas activée. Et nous avons dit que pour activer la bénédiction, il faut, semer. Dis à ton voisin, semer. Et nous avons également vu que pour activer la bénédiction, tu peux avoir la bénédiction de l'Éternel comme Abraham. Il avait déjà la bénédiction parce qu'il était descendant de Sem. Mais la bénédiction n'était pas manifeste pour la simple raison qu'il n'avait pas encore quitté. Tu dois accepter de quitter. Dis à ton voisin, quitte. Tu dois te détacher de certaines personnes qui n'expérimentent pas la bénédiction de l'Éternel. Dieu va te demander de quitter ta patrie, de quitter tes parents. Ça veut dire que tu ne seras plus fier de dire je suis français, je suis martiniquais, je suis congolais, je suis centrafricain, gabonais. Tu dois quitter ta patrie. Dis à ton voisin, quitte. Chaque fois que tu es fier de dire je suis un tel, je suis de telle nationalité, tu es en train de rappeler à toi toutes les dominations, toutes les œuvres que les dominations de ces régions pratiquent. Quand tu dis... je n'ai pas envie de donner d'exemple, pardon. Après, ça va dire, ouais, il m'a attaqué sur le pupitre. Dieu va te demander de quitter ta patrie, va te demander de quitter ta famille, de quitter tes parents, même s'il le faut. Et quand il parle de quitter, Dieu ne parle pas de déménager physiquement. Dieu parle de te détacher émotionnellement, spirituellement, et des fois aussi physiquement. Parce que quand tu habites dans une maison polluée toujours, tout en permanence, par des injures, par des critiques, par des calomnies, que tu le veuilles ou que tu ne veux pas, ce que tu entends t'affecte. Est-ce que quelqu'un peut dire c'est vrai? Alors des fois, vaut mieux déménager et puis arrêter. Et tu vas te dire même de quitter certaines fréquentations. Certains soi-disant amis qui passent leur temps à t'injurier, à te critiquer, à te calomnier. Dis à ton voisin, quitte. Parce que les paroles qu'ils te disent, si ces paroles sont inspirées du malin, c'est-à-dire... Si ce sont des paroles de malédiction, qu'on a dit des paroles de malédiction, malédiction, malédire, ça veut dire un dire qui vient du malin. Si ces paroles sont inspirées par le malin, Dieu va te demander de quitter. Parce qu'il sait que tes associations déterminent ton impartition. Littéralement, ça veut simplement dire que tes fréquentations ou encore tes associations déterminent ce que tu reçois. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il y a un transfert. Il y a un transfert invisible qui se fait. Tu ne te rends peut-être pas compte, mais il y a toujours un transfert invisible qui se fait. Je suis souvent scandalisé quand je vois un croyant qui a pour meilleur ami un incroyant. Mon meilleur ami, mais il n'est pas converti. C'est toi qui n'es pas converti et vous n'êtes pas convertis tous les deux. Tu ne peux pas avoir pour meilleur ami un inconverti. Ce n'est pas possible. Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans être mis d'accord? Dis-moi ce que vous avez en commun, à part les robes et les costumes et les belles chaussures et les belles voitures. Dis-moi ce que vous appréciez en commun. Vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas dans le même monde. Je ne dis pas qu'il faut que ce soit ton ennemi. Je dis, vous ne pouvez pas, il ne peut pas être ton meilleur ami. Le fait qu'il soit ton meilleur ami, ça me pose un problème. La Bible dit, qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres, entre la justice et l'iniquité? Qu'est-ce qu'il y a en commun? C'est mon meilleur ami. Lui au moins, il m'aime. Ça veut dire que toi, tu as un problème dans l'église à trouver des amis. Et quand quelqu'un dans l'église a un problème pour trouver des amis, ça veut dire que lui-même, il a un problème. Parce que trouver des amis, c'est simple. Il suffit d'être amical. Trouver des gens sympas, c'est simple. Il suffit d'être sympathique. Si tu es antipathique, tu ne trouveras pas des gens sympathiques. Alors c'est facile de se tourner vers l'extérieur et de dire, là-bas, il n'y a pas d'amour. Je ne parle pas à toi, calme-toi. Tu ne peux pas être le meilleur ami de Jonas. Tu ne peux pas être le meilleur ami de Jonas. Jonas, c'est quelqu'un qui a désobéi à Dieu. Et il transportait la poisse. Jonas monte dans le bateau. Avant que Jonas monte dans le bateau, il n'y a pas de problème. Les experts savent, parce que c'est les marins professionnels. Ils savent que tout le temps, la météo est favorable. Dès que Jonas monte dans le bateau, la poisse monte dans le bateau. Il y a des gens dans ta vie, quand ils rentrent dans ta vie, ils amènent la poisse. la rébellion avec laquelle ils viennent chez toi là. Ils emmènent la poisse dans ta vie. Et à cause de leur fréquentation, brusquement tes enfants commencent à tomber malades. Des choses commencent à se perdre dans la maison. Dis à ton voisin, quitte. Tu me dis, ah oui, mais il faut que, faut bien qu'il soit sauvé. Je suis d'accord. Donc il faut bien que quelqu'un reste avec eux, je suis d'accord. Mais tu dois quitter. Quitter, ça veut quitter, c'est émotionnel et spirituel. Alléluia. Il faut qu'il soit sauvé. Et comme par hasard, je suis d'accord pour dire qu'il faut qu'il soit sauvé. Mais comme par bizarrement, quand tu es avec ce genre de personnes, bizarrement, au bout de quelques années, au bout de quelques mois, ils ne sont toujours pas changés par ton comportement. C'est toi qui deviens changé et qui deviens influencé par. Et tu me dis, il faut qu'il soit changé. Mais ouais, mais qui est en train d'être changé? C'est toi ou c'est eux? Dis à toi, je quitte. Nous avons vu que la bénédiction est activée lorsque nous offrons un sacrifice à Dieu. Dans Genèse chapitre 12, Dieu a béni Abraham. Dans Genèse chapitre 22, Dieu a juré qu'il allait bénir Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham a offert un sacrifice. Maintenant, vous allez vous rendre compte que, malgré le fait que la bénédiction de l'Éternel est sur votre vie, parce que si tu as reçu Jésus-Christ, si tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, alors la Bible dit dans Galates chapitre 3, verset 13, que Christ a été fait malédiction pour toi. Il a été maudit à la croix pour que tu sois béni et que tu reçoives la bénédiction de l'Éternel. Donc, ça veut dire que, potentiellement, normalement, cette bénédiction est sur toi. Mais il y a deux cas. Que quelqu'un dise deux. Il y a deux cas. Il y a des cas dans lesquels la bénédiction n'est pas encore manifestée parce que la personne est ignorante. C'était le cas de Isaac. La bénédiction n'était pas activée parce que Isaac ne semait pas. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Il y a des cas où Abraham n'était pas activé parce qu'il ne quittait pas. Dès qu'il a quitté, la bénédiction a commencé à se manifester. Dès que Isaac a semé, la Bible dit que la même année, il a récolté 100 fois plus. Ce n'est pas 100%, c'est 10 000%. Que quelqu'un dise 10 000%. Dis ça, ça m'arrivera. En tout cas, si tu ne crois pas, je le crois. Que quelqu'un dise amen. Donc vous voyez, le premier cas, c'est des gens qui n'activent pas la bénédiction simplement à cause de leur ignorance. On lui a dit, tu es sauvé, maintenant, alléluia, si tu cries au Seigneur, Dieu va te répondre. Et tu cries au Seigneur, Dieu ne te répond pas, et tu dis, Seigneur, tu m'as abandonné. Non, c'est parce que simplement tu n'as pas activé la bénédiction. Le manteau est sur toi. La capacité de faire la différence, la capacité de prospérer dans tous les domaines de ta vie, de manifester la gloire de Dieu dans tous les domaines de ta vie. Parce que laissez-moi vous dire, la bénédiction enrichit dans tous les domaines. L'argent n'enrichit pas dans tous les domaines. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mais la bénédiction amène des fois aussi l'argent. Si tu sais utiliser les bonnes clés. Alléluia. Le premier cas, je le disais, c'est les gens qui ont la bénédiction, mais elle ne marche pas. Et donc, du coup, tu ne fais pas la différence, il n'y a pas de différence entre toi et les autres. Pour la simple raison que tu n'actives pas la bénédiction en utilisant les bonnes clés. Maintenant, il y a une deuxième catégorie. C'est ceux qui sèment pour activer la bénédiction. Ceux qui quittent. Émotionnellement, ils disent qu'ils ont quitté. Spirituellement, ils ont quitté leur vie passée. Mais malgré ce qu'ils font, la bénédiction est toujours neutralisée. Ça, c'est le deuxième cas dont je vais parler aujourd'hui. Ça, ce sont des personnes qui changent de fréquentation, qui s'aiment, qui bénissent Dieu même quand ça fait mal. Mais il y a une malédiction qui est en train de freiner la manifestation de la bénédiction de l'Éternel dans ta vie. Proverbe chapitre 26, verset 2. Allons-y vite. Proverbe chapitre 26, au verset 2. La Bible dit ceci, dans Proverbes chapitre 6, au verset 26 au verset 2. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, nous prenons ce passage et nous disons, ah, la malédiction sans cause n'a pas d'effet, donc ça ne peut pas marcher dans ma vie. Il n'empêche que lorsque tu regardes attentivement ta vie, tu vas te rendre compte que des fois, il y a des choses qui peuvent être des signes d'une malédiction quelque part dans ta vie. Et aujourd'hui, je suis là pour que ça change, que quelqu'un dise amen. Amen. La malédiction sans cause n'a point d'effet. Ça ne veut pas dire qu'une malédiction ne marche pas. Ça veut simplement dire qu'une malédiction, pour fonctionner, pour opérer, pour être manifestée, a besoin d'un support légal, a besoin d'un fondement. Elle a besoin d'une base sur laquelle elle s'appuie. Et tant que cette base est là, quel que soit ce que tu dis, la malédiction sera là. Et dans ce genre de cas, il est inutile de blâmer le diable, d'accuser Dieu, mais il est extrêmement important de faire une introspection. c'est-à-dire d'inspecter tous les domaines de ta vie, de rentrer en toi-même comme l'enfant prodigue et de dire, Seigneur, maintenant parle-moi. Il y a quelque chose qui n'est pas normal dans ma vie et qui doit changer. À quoi reconnaissez-vous la malédiction? Dites-moi, parmi vous ici, qui a déjà lu Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 15 jusqu'au verset 68, qui lève la main? Vous voyez, il y a très peu de mains. Je vous dis pourquoi. La plupart des gens ont entendu parler de la bénédiction de l'Éternel. Donc, beaucoup de gens lisent Deutéronome chapitre 28 à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Voici les bénédictions qui t'accompagneront et qui se répandront sur toi, qui sont paroles de toi lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni à ton départ, béni à ton arrivée. Ah, le fruit de tes entrailles sera béni. Ta ruche, ta corbeille, ta cruche, l'un de tes entrepôts, tout ça, ça sera béni. Oh, l'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans toutes tes entreprises. Béni, 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 béni. Et dès qu'on arrive maintenant au verset 15, voici la liste. Là, bizarrement, les bénédictions, elles sont peut-être quand Dieu prononce une parole, il n'y a pas besoin d'en dire plusieurs. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et bizarrement, les bénédictions, ça va du verset 1 jusqu'au verset 14. Mais les malédictions commencent du verset 15 jusqu'au verset 68. Dieu te donne un portrait de toutes les malédictions qui vont arriver dans ta vie lorsque tu désobéiras à la voix de l'Éternel. Ça veut littéralement dire lorsque tu écouteras la voix du malin et que tu te laisseras inspirer à faire des choses en fonction de la voix du malin qui t'a parlé, voilà ce qui va t'arriver. Je ne vais pas vous dire ça aujourd'hui parce que je n'ai pas envie de voir toute l'église commencer à se lever et puis sortir de la salle. Mais laissez-moi vous dire une chose, c'est intéressant et c'est très important de lire toute la liste des malédictions. Moi, je les lis. Parce que quand je lis ça, ça me donne la chair de poule. Deux, je dis, je ne veux pas ça. Trois, je dis, Seigneur, je t'obéirai. Amen. Que quelqu'un dise amen. Amen. Oh, que quelqu'un dise amen. Amen. Si tu ne lis pas Deutéronome chapitre 28 à partir du verset 15 jusqu'au verset 68, tu ne sauras pas des fois identifier ce qui peut être potentiellement un symptôme de malédiction. Et tu vas croire que c'est normal. Voilà pourquoi c'est important de lire la parole. Parce que la parole est comme un miroir. Lorsque je lis la parole, je me dis, voilà ce qui normalement devrait m'arriver. Si ce genre de standard ne m'arrive pas, et que ce que Dieu dit dans Deutéronome chapitre 28 au verset 15 jusqu'au verset 68, c'est ce qui est en train de m'arriver, je ne peux pas continuer de dire, alléluia, je suis béni. Non, je dois, d'accord, je suis béni, mais il y a quelque chose qui a neutralisé, qui a court-circuité la bénédiction de l'Éternel dans ma vie. Il faut que je fasse une introspection pour comprendre ce que c'est et pour le remettre à l'endroit, parce que ça, c'est à l'envers. Alléluia. Vous voyez, le fait même que mon frère, ma soeur, tu ne lises pas Deutéronome 28, ça veut dire que Satan va te faire passer certaines choses comme étant normales, alors que ce n'est pas normal. Il y a des malédictions. Alors, je ne vais pas vous le lire, mais je vais vous dire quelques signes. Quelques signes qui permettent de reconnaître la malédiction. Dans Genèse chapitre 1, verset 28, Dieu a dit, puis Dieu leur dit, soyez féconds. Que quelqu'un dit, soyez féconds. Que quelqu'un dit, soyons féconds. Ça veut simplement dire soyons productifs. Il faut que le fruit soit manifeste dans ma vie. Soyons fertiles. Soyons féconds. Soyons productifs. Quand Dieu dit porte du fruit, soyez productifs, soyez féconds, ça veut dire porte du fruit. Il parle de toutes sortes de fruits. Il parle du fruit, d'avoir le fruit des entrailles. Mais il ne parle pas que de ça. Il parle du fruit parce que Dieu a mis la semence de l'amour, la semence de la paix, la semence de la joie, la semence de la foi. Il y a quelqu'un qui n'est jamais dans la joie. Tu as accepté Jésus, mais tu ne connais pas la joie. C'est quelque chose d'étranger pour toi. Tu ne connais pas la paix. Toujours stressé. Toujours triste. Il y a des chrétiens toujours tristes, toujours le visage serré. Comment ça va? Une semaine après avoir accepté Jésus, je comprends. Un an après, je m'inquiète. Deux ans après, je panique. Trois ans après, je jette l'éponge. Je dis non, là il y a une malédiction. C'est pas normal. Pas de compassion, pas de pardon. Toujours rongé par le manque de pardon, par la haine. Alors je vais vous lire quelques signes de malédiction. Au niveau financier, la Bible dit que tu seras esclave de ton banquier, esclave de ton bailleur. Commencez déjà à réfléchir. Tu passes toute ta vie en train de rembourser des dettes. Baisse ta tête. Esclave. La plupart des gens sont esclaves. Dès que tu reçois ton carnet, dès que tu reçois ton salaire, premièrement, tu penses d'abord à la banque, après le bailleur, après EDF, après France Télécom. Seigneur, le reste, c'est pour toi. Oui, prends tout, Seigneur. Dieu dit malédiction. Baisse la tête. J'arrive. Tu transpires beaucoup. Lisez Deutéronome chapitre 28. Tu sues énormément pour travailler. Mais quand tu as produit quelque chose, c'est quelqu'un d'autre qui mange. Parce que la Bible dit que les sauterelles vont dévorer tes récoltes. Les sauterelles, c'était l'armée de Dieu que Dieu envoyait pour juger son peuple. Les sauterelles, ce sont les signes, les symboles des démons qui viennent ravager tout ce que tu fais. Et je bénis Dieu parce que la première chose que Jean-Baptiste a fait, c'était de manger les sauterelles avant que Jésus n'arrive. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ça veut dire que tu dois les bouffer. Tu dois bouffer hier, tu dois les bouffer aujourd'hui. Marcher sur la tête au nom de Jésus. Tes poches sont trouées. L'argent te file entre les doigts. Les gens te font des sales coups. Ils montrent contre toi des complots à ton travail, dans ta famille. Et bizarrement, ces complots réussissent sans aucune impunité. Tu dis, Seigneur, pourquoi moi? Et tu te rends compte que tu as beau dire, Seigneur, pourquoi moi? Dieu de justice manifeste-toi et ne se manifeste pas. Et la justice de Dieu n'est pas accomplie. C'est un signe d'une malédiction. Dis à toi, fais attention. Au niveau spirituel, tu te sens constamment oppressé. Tu te sens constamment poursuivi. Personne ne te suit, mais toi tu cours tout le temps. Oh. Oh, toujours. Oh. Tu n'es jamais dans le repos de la foi. Tu es toujours faible, toujours vaincu par l'ennemi, jamais vainqueur. Alors qu'il a dit que toi tu dois dominer tes ennemis. Sa postérité, quand tu as la bénédiction, quand elle marche dans ta vie, tu es censé dominer les portes de tes ennemis. Tu es censé écraser tes ennemis. Mais toi, bizarrement, tu es toujours défait par tes ennemis. Toujours vaincu, toujours la tête baissée. Spirituellement, toujours oppressé, opprimé, comprimé, déprimé. Et tu deviens même pour les païens un objet d'effroi. C'est-à-dire que les incroyants regardent ta vie et disent, tu vas où? À l'église? Ne dis pas ICC, je t'en supplie. Ne dis pas ICC. Dis, je vais dans une église quelque part, ne dis pas ICC. C'est-à-dire que les païens te regardent. Ouh! Tu crois en Dieu? C'est ça Dieu? Ouh là là! Tu deviens un objet d'effroi. Les gens regardent à ton témoignage et disent, ouh là là, si c'est cette chrétienne, j'en veux pas. Malédiction! Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Parce que ce n'est pas ça qui doit t'arriver. L'ennemi n'a pas peur de toi. Tu dis, Satan recule et puis il avance. Au nom de Jésus! Il sourit. Je suis là. Au nom de Jésus! Il n'a pas peur de toi. Il y a un problème. Est-ce que tu peux dire à toi, Zach, là il y a un problème? Au niveau spirituel, tu te livres à l'idolâtrie. Tu es esclave de la sorcellerie. Tu es enfant de Dieu. Et tu es encore esclave de la sorcellerie. Esclave des démons qui te tourmentent. Ce n'est pas normal. C'est un signe de ce que quelque part, il y a une malédiction. Tu ne ressens pas la présence de Dieu. Au niveau spirituel, quelqu'un est pris. Tu pries. Tu parles à Dieu. Tu ne ressens pas sa présence. Tu ne ressens pas sa présence, tu ne ressens pas sa paix. Et tu as du mal à comprendre sa parole. Tu viens à l'église, quand on parle de la parole, toi tu ne comprends rien. Quand on te sort de là, on te demande qu'est-ce qu'on a dit à l'église? Ah, je ne sais pas ce qu'on a dit. Et même quand tu sais ce qu'on a dit, incapable de l'appliquer. La parole ne trouve pas de terre fertile en toi. C'est un signe de malédiction. Lis Deutéronome chapitre 28. Je ne vais pas te le lire pour ne pas te faire fouiller, mais lis-le. Au niveau familial, tu es toujours abusé, trompé, écrasé par ton conjoint. Tes enfants sont captifs de l'ennemi. Ça veut dire quoi? Il dit, vous aurez des enfants, d'accord, mais ils seront emmenés en captivité. Captifs de la drogue, captifs de la pornographie, l'inceste, la masturbation, les mauvaises fréquentations, la délinquance, la dépression. Est-ce que tu te rends compte que ce n'est pas normal? Dis à ton voisin, ce n'est pas normal. Tu vas dire, c'est là, ouais, mais ce sont mes enfants. Ouais, mais ils font ce qu'ils veulent. Non! Chaque espèce se reproduit selon son espèce. Si c'est ça qu'ils sont en train de manifester, il y a un problème. C'est passé par quelque part. Satan ne peut pas toucher mes enfants sans ma permission. Il ne peut pas bousiller ta famille, ta vie sans ta permission. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Nous développerons ça plus tard à l'école biblique. Il ne peut pas. Rébellion chez les enfants. Rébellion dans la famille. Tu donnes des ordres, personne n'écoute. Parce que toi-même, tu n'as pas écouté Dieu. Et quand il y a une malédiction au niveau familial, il y a un esprit de suspicion, esprit de jalousie dans la famille. Il y a un esprit de jalousie. Il est là, il est assis, suspicion, jalousie permanente. Division permanente. Monsieur rentre à 2h du matin. Quand à 22h, elle appelle. Madame appelle. Comme par hasard, quand elle appelle, elle entend une voix d'une femme à côté. Tu es où? Non, c'est rien. Laisse tomber, je suis occupé là. Et à 2h du matin, il n'est pas rentré. Ça y est, le film commence à être monté, commence à dresser les portraits. Commence à se dire, il y a quelqu'un qui te suggère. C'est pas normal. Il est où à cette heure-ci? 3h du matin arrive, il n'est toujours pas rentré. J'ai vu des couples comme ça, chrétiens, nés de nouveau, qui ne se rendent pas compte que c'est une malédiction. Parce que moi, par la grâce de Dieu, même quand je rentre à 4h du matin, je n'ai même pas averti ma femme de là où j'allais. Ma femme ne soupçonne même pas que je suis avec une femme. Ça ne lui vient même pas à l'esprit. Vous savez ce qu'elle se dit? Il parle tellement, il est tellement passionné par l'évangélisation, par parler avec les gens. Je suis sûr qu'il est resté encore chez quelqu'un en train de parler jusqu'à cette heure-ci. Donc elle m'appelle et dit, mais qu'est-ce que tu fais encore? Faut rentrer. Jamais. Gloire à Dieu. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'il y a un fondement de malédiction que je m'étais assuré de détruire avant de me marier. C'est pas juste, je vais me marier, un beau costume noir, une belle robe, alléluia, c'est le bonheur assuré. Ah, attends, il y en a pour qui c'est l'enfer assuré. Suspicion permanente. Au niveau social, les gens qui étaient censés être en-dessous de toi, les gens qui étaient censés te servir, parce qu'il a dit que toutes les nations doivent te servir, ce sont des gens qui t'écrasent et qui sont au-dessus de toi. C'est pas normal. Que quelqu'un dit c'est pas normal. Ce n'est pas un signe de bénédiction. Au niveau physique, apparition de maladies. Verset 57, Deutéronome chapitre 28. Apparition de maladies de plus en plus tenaces les unes après les autres. Mort prématurée, ravage dans la famille. Ah, j'ai oublié de vous dire, au niveau familial, non, on va parler tout à l'heure. Au niveau psychologique, il dit, ton âme sera tout le temps languissante, c'est-à-dire découragée. Esprit de dépression. 10% de la population française est dépressive. Phénomène naturel, malédiction. Ton cœur sera constamment agité. Tu douteras de ton existence. Tu trembleras la nuit comme le jour. Viens le jour, tu diras vivement la nuit. Viens la nuit, tu diras vivement le jour. Toujours stressé. Et tu es comme ça, et tu es là. Alors vous allez me dire, certes, il y a certaines souffrances que je viens de décrire qui sont le résultat des épreuves et pas d'une malédiction. Mais alors, comment tu fais pour discerner les deux? Parce que tu dois savoir discerner les deux. Comment tu fais pour discerner les deux? C'est simple, je vais vous donner quelques points. Une épreuve dure une saison. La nuit, c'est le temps des pleurs, d'accord. Mais la Bible dit qu'il y a le matin. Quelqu'un dise le matin. Que quelqu'un dise le matin. Le matin vient la joie. Lorsque c'est une épreuve dure une saison. Après cette saison, c'est une saison de joie et d'allégresse. Une malédiction est comme un joug que tu traînes depuis très longtemps et pour lequel tu n'as aucun répit, aucune relâche. C'est, tu sens toujours en permanence cette même chose sur toi. Je ne peux pas te dire ce que c'est. Je te dis simplement qu'il faut que tu fasses la différence. Ce n'est pas une épreuve. Je te parle de malédiction. Lorsqu'une épreuve vient, elle a toujours une date d'expiration. Et puis après, tu passes à autre chose. Une épreuve n'est pas une malédiction. Une épreuve est un examen. Une épreuve, c'est un test par lequel Dieu façonne ton caractère. Parce que Dieu sait que tu n'entres pas dans une nouvelle saison sans que tu n'aies d'opposition. Il n'y a pas de nouvelle position sans opposition. Et l'opposition, c'est l'examen, c'est l'épreuve, c'est le test. Chaque fois qu'il y a une épreuve, Dieu est en train de t'annoncer que tu vas dans une autre dimension. Que quelqu'un dise amen. Mais une malédiction est quelque chose qui revient de manière régulière. Qui revient de manière périodique, qui revient de manière cyclique. Il peut y avoir des malédictions. Il peut y avoir une malédiction sur une famille, sur une personne, sur une région ou sur tout un pays. Il y a des familles dans lesquelles toutes les femmes sont soit célibataires, soit divorcées. Malédiction. Et toi, tu trouves ça normal? Alléluia. Ah, mais moi, ça va changer. C'est vrai que toi, ça va changer. Mais je te garantis qu'il faut que tu fasses une introspection parce qu'on verra plus tard. Il y a des choses que tu dois faire pour casser ce joug dans ta vie. Que quelqu'un dise amen. Il y a des malédictions qui frappent des nations, qui frappent un pays. Les gens sont contents, ils sont fiers, ils trouvent normal de dire tous les mois de décembre, c'est la grippe. Autrement dit, tous les mois de décembre, il y a une dévastation, il y a des contagions, des épidémies, des fléaux qui frappent toute la terre. C'est des malédictions. Malédiction périodique, saisonnière. J'ai connu une fille, une sœur chrétienne, qui, tous les ans, à la même période, faisait une crise de folie. tous les ans à la même période. Je ne sais plus quel mois c'était. Mais dès que cette période approche, même période, toujours crise de folie. Alors on l'a enfermé dans un hôpital psychiatrique. Et quand tu vois ce genre de choses, c'est pas la peine d'aller te mettre juste devant l'hôpital en disant, bon, au cas où la crise va se déclencher, tout de suite les brancardiers me prennent et puis m'enferment. C'est pas ça. Tu dois faire une introspection parce que si une malédiction continue d'opérer, la Bible dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet, ça veut dire qu'elle a un fondement sur lequel elle s'appuie pour continuer de fonctionner comme ça. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est pas la peine de prendre des mesures préventives. Alors, je vous laisse mon téléphone, s'il vous plaît, SOS folie. Dès que vous voyez que je suis en train de tout casser, venez me chercher. Normalement, ça dure 2 semaines et puis après, je vais mieux. Non, c'est une malédiction. À quoi vous reconnaissez, vous distinguez, comment vous distinguez une épreuve d'une malédiction? Dans une épreuve, tu as parfaitement la joie. Si c'est une épreuve, généralement, si c'est une épreuve, tu gardes la joie du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Parce que tu sais dans l'épreuve que Dieu est en train de te façonner. Et dans l'épreuve, quand tu vas prier, tu vas avoir un témoignage intérieur de paix. Tu sais que Dieu est au contrôle et tu es dans la joie totale. Mais lorsque c'est une malédiction, même quand tu pries, tu n'as pas la paix. Tu n'as pas la joie, tu n'as pas la paix, tu te sens toujours angoissé. Parce que en réalité, à l'intérieur de toi, tu reconnais que ce n'est pas quelque chose de normal. L'Esprit de Dieu rend témoignage à ton esprit. Ça, ce n'est pas normal. Et laissez-moi vous dire une chose, quelqu'un est en train de se dire, mais j'ai accepté Jésus, c'est pas possible ce qu'il dit. Laisse-moi te dire une chose. J'avais accepté le Seigneur moi aussi, depuis longtemps. Je chassais les démons, jusqu'à ce que je me rende compte qu'il y avait des choses dans ma vie qui n'étaient pas normales. J'aimais toujours les enfants, j'aimais les enfants, j'aimais tout le monde, j'aimais les enfants de tout le monde. Et quand il fallait avoir nos propres enfants, ça ne m'intéressait pas. Ça ne m'intéressait pas. Ouais, mais il n'y a pas le feu. J'ai dit à ma femme, il n'y a pas le feu. Ouais, mais attends, mais c'est quoi ton problème? Je dis, j'ai pas de problème. Attends, je suis quand même. J'étais pas pasteur, mais j'étais un zélé pour le Seigneur quand même. Je suis chrétien de nouveau. J'ai pas de problème. Tout va bien. C'est pas normal. Tu aimes les enfants des autres, tu peux avoir tes enfants, tu n'as pas envie d'avoir des enfants, pourquoi? Mais non, c'est pas important, c'est pas grave. Et un jour, ma femme s'énerve et me dit, tu as un problème. Je dis, non, j'ai pas de problème. Elle me dit, si tu as un problème. Je dis, bon. Elle me dit, celui qui est la réprimande mourra. Il ne faut pas réduire ton coup, il faut écouter ce qu'on te dit. Est-ce que quelqu'un, tu peux dire comme ça, écoute ce qu'on te dit. Il y a des choses que tu considères comme normales, elles ne sont pas normales. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, ah, on ne sait jamais. Alors avant de me coucher, j'ai dit, Seigneur, s'il y a quoi que ce soit dans ma vie qui est caché et qui fait que je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas un problème personnel, mais c'est juste que je n'ai pas envie d'avoir des enfants. Seigneur, si ce sentiment que j'ai est un sentiment qui n'est pas normal, expose-le dans ma vie. Pas plus tard que le lendemain matin. À 6h, 5h, 6h du matin, j'entends une voix qui me parle, qui me dit, est-ce que tu te souviens qu'avant de venir à moi, tu as fait faire des avortements à des femmes? J'ai dit oui. J'ai demandé pardon, Seigneur. Il dit oui, tu as demandé pardon. Mais je t'ai pardonné. Le problème, c'est que tu as chassé des enfants. Et la joie d'avoir des enfants t'a été volée. Aussi bête que ça. Vous savez, des fois, il faut faire preuve d'humilité. Il y a des choses qui ne sont pas normales. Il y a des sentiments que tu as qui ne sont pas normaux. Je vais me marier, je ne vais pas me soumettre. Sinon, c'est une malédiction. Il y a quelque chose qui te pousse à agir comme ça, ce n'est pas normal. C'est un tir qui vient du malin et qui a couché en toi certains types de caractères. Derrière, il y a une malédiction. Ce n'est pas juste, non, c'est moi, je suis comme ça. Tu n'es pas né comme ça. Tu es devenu comme ça. Dis à ton voisin, fais une introspection. Alors, comment viennent ces malédictions? Comment elles viennent? Rappelez-vous que la malédiction, c'est une suggestion. Ça a commencé dans le jardin d'Éden. Une suggestion qui vient du diable et qui est un murmure, une suggestion qui est faite dans l'oreille, une parole qu'il t'envoie. Et cette parole influence tes pensées. Et tes pensées affectent, influencent tes émotions. Tes émotions vont influencer ton attitude. Ton attitude va influencer ton caractère. Et ton caractère va influencer ta destinée. Satan est tellement malin qu'il sait il sait qu'il suffit juste de répondre une parole, une suggestion. Dieu a-t-il réellement dit? Non. Il n'a pas dit ça. D'ailleurs, Dieu est contre toi. Laisse tomber. Une simple parole suffit à bousiller la vie de quelqu'un. Alors, j'ai répertorié deux ou trois grands domaines de désobéissance. Voyez-vous, là, je ne suis pas en train de vous parler des gens qui fonctionnent avec l'ignorance. Je ne suis pas en train de vous parler de gens qui ne s'aiment pas. Je suis en train de vous parler de gens qui, même lorsqu'ils s'aiment, ne voient pas la moisson. Qui, même lorsqu'ils quittent, ne voient pas la bénédiction être activée. Qui, même lorsqu'ils font normalement ce qu'il faut faire pour déclencher les choses ne sont pas déclenchées. C'est de ça que je suis en train de parler. Quelqu'un qui disparle. Alors, je ne vais pas tout développer avec vous, parce qu'il y en a énormément. Mais j'ai mis trois grosses catégories. La première catégorie, c'est le mépris envers Dieu. Ou encore l'irrespect envers la sainteté de Dieu. La deuxième catégorie, c'est marcher selon la chair. La troisième catégorie, c'est le manque de pardon. Je vais développer aujourd'hui, juste partiellement, je vais vous développer marcher selon la chair. Alors, ouvrons nos Bibles à Galates, chapitre 5, versets 19 à 21. Vous devez comprendre une chose. Galates, chapitre 5, versets 19 à 21. Allons-y vite. Je lis. Est-ce que vous y êtes? Si vous y êtes, dites amen. Si vous n'êtes pas, dites aïe. Bon. Galates 5. C'est pas la peine de regarder après Apocalypse. Ça ne s'y trouve pas. Galates 5. Après Corinthiens. Romains, Corinthiens. Mon frère, tu vas à Galates. Quelqu'un dit, mais où est Corinthiens? Bon, va à la page numéro 1 de ta Bible et puis regarde les titres des chapitres. Ça, on va aller vite. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Allez à Galates chapitre 6, allez au chapitre 6, au verset 7 à 8. Ne vous y trompez pas. Est-ce que vous y êtes? Ne vous y trompez pas. Galates 6, verset 7 à 8. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, où? Dans le champ de quoi? De son cœur. Que quelqu'un dise amen. Dis son cœur. Dis mon cœur. La Bible dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Une autre version dit la destruction, ou une autre version dit encore la mort. D'autres versions disent la malédiction. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Voyez-vous, vous devez comprendre une chose, revenez un peu avec moi en arrière. Lorsque Adam et Ève ont désobéi à Dieu, lorsque Adam et Ève ont quitté, je vous ai expliqué il y a 3 semaines, je crois, ou il y a 4 semaines, je vous ai expliqué que lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu l'a créé pour fonctionner d'une certaine manière. Dieu a créé l'homme, le corps de l'homme à partir de la poussière. Que quelqu'un dise poussière. Et lorsqu'il a créé le corps de l'homme à partir de la poussière, Dieu a prévu que l'homme se nourrisse, puisqu'il est, son corps est sorti de la poussière, je vous ai dit qu'il a prévu que l'homme se nourrisse physiquement de tout ce qui sort de la poussière. Voilà pourquoi même lorsqu'il va sur Mars ou sur les différentes planètes, il est obligé d'emmener les aliments qui sont sortis de la poussière. Et je vous ai dit que lorsque il a créé l'esprit de l'homme, il a créé à son image et il a sorti l'esprit de l'homme à partir de lui. Et l'homme est un esprit. L'homme est un esprit et l'esprit aussi a besoin de se nourrir. Sauf que l'esprit ne mange pas des aliments. C'est pour ça qu'il faut arrêter d'aller le 1er novembre, d'aller dans les cimetières et puis d'abord il faut arrêter de parler aux morts. Hein, ça c'est une abomination. Et ensuite il faut arrêter de dire aux morts, je t'ai apporté un peu de vin, parce que ça, on fait comme ça dans certains pays. Ah, on t'a apporté un peu de vin et puis on met de l'eau, on met du vin et puis on renverse la nourriture autour de la tombe. Comme si elle allait, il ne va rien manger. C'est un esprit. Que quelqu'un dise amen. Ça c'est de la religiosité. C'est une malédiction. Parce que la Bible dit dans Deutéronome chapitre 18, je crois, versets 9 à 11, de ne jamais parler avec les morts. Quand il est mort, il est mort. Ne va pas devant un cadavre, même quand le cercueil n'est pas là, ne parle pas à un mort. Amen. Je sais que la religion t'a dit, oui, c'est un saint. C'est un saint, mais il est mort. On ne parle pas aux morts. Parce que quand tu parles à un mort, à quelqu'un qui est décédé, en fait, d'abord, un, il ne t'entend pas, il ne peut pas intercéder pour toi, parce que la Bible dit, celui qui intercède pour toi, c'est Jésus-Christ. Il intercède pour toi auprès du Père. Il est assis à la droite de Dieu. Tu as le plus fidèle et le plus efficace des médiateurs. Quelqu'un qui est juste à la droite du Père. Et il intercède pour toi. Pourquoi veux-tu aller prendre toutes sortes de chemins compliqués? Passer d'abord par Saint-Antoine. De Saint-Antoine, je bifurque vers Marie. De Marie, je bifurque vers Saint-François. De Saint-François, je vais encore à Saint-Barthélemy. Et de Saint-Barthélemy, j'arrive à Jésus. Et de Jésus, j'arrive au Père. Ça, c'est de la religiosité et ça t'attire la malédiction. Parce que la Bible dit de ne pas parler avec les morts. Bénis Dieu, mais ne parle pas à un mort. Parle à Dieu, n'adore pas un mort. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Si tu ne comprends pas ce que je te dis, va lire Deutéronome chapitre 18, versets 9 à 11. Qu'on ne trouve chez toi personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'enchanteur, de magicien, de marabout, de féticheur. Tout ça, c'est ce qu'on appelle l'occultisme. Magie noire, magie blanche. Alors, pour ceux qui ne savaient pas, magie noire, c'est la sorcellerie. On utilise le pouvoir occulte pour faire du mal. Magie noire. Magie blanche, c'est la sorcellerie. On utilise, soi-disant, les pouvoirs occultes pour faire du bien. C'est-à-dire, tu vas chez un féticheur, on appelle certains guérisseurs. Tu vas chez lui et tu lui dis ça va pas, j'ai mal ici. Il dit ah, il va consulter les démons avec lesquels il travaille et puis les démons déplacent la maladie qui était là, ils la mettent maintenant au pied. Et donc bizarrement, ah ça va mieux, je suis allé chez le marabout, ma situation va mieux. Mais bizarrement c'est au pied maintenant que ça a commencé. Alors viens encore, on va faire un autre passage au pied. On déplace le même démon, on le déplace en différent. Ah. Il y a un sort de l'ignorance. Il lui sort de la malédiction. Qu'on ne trouve pas chez toi quelqu'un qui consulte les astres. Tu es qu'un signe. Je suis un cancer. Attends. Tu es quoi? Poisson. Ridicule, stupide, insensé. Un être créé à l'image de Dieu dit je suis un poisson. Alors, pourquoi tu ne bouges pas la queue pendant que tu es? Nage tout de suite. Taureau. Quand on ne sert pas Dieu, on sert des stupidités. Que quelqu'un dise amen. Oh Jésus. Je reviens à ce que je disais. Oui, je vous ai dit que l'homme a été conçu, programmé par Dieu pour fonctionner, se nourrir de paroles. Un esprit mange la parole. Et c'est ce que Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'esprit mange la parole. Mais en fait, dans la pensée de Dieu, puisque l'esprit n'est pas sorti de n'importe qui, et qu'il est sorti de Dieu, alors la parole qu'il doit manger, c'est celle qui vient de Dieu. Mais, à quel moment entre la malédiction? C'est lorsque l'homme prend une parole qui ne vient pas de Dieu, qui vient du malin. Et cette parole fait de lui un être qui marche, non plus par l'esprit, mais par la chair. Au gré des émotions. Je me sens bien, ça va. Quelqu'un me plaît pas, je le frappe. J'aime pas ta tête, je le tape. Ah, c'est marché par la chair. Ah, Seigneur. Marcher par la chair, c'est quoi? Marcher par la chair, c'est laisser des paroles ou des suggestions du malin contrôler mes pensées. Ce qui contrôle tes pensées va contrôler tes émotions. Ce qui contrôle tes émotions va contrôler toute ton attitude. Et ce qui est une attitude régulière chez toi devient un caractère imprégné à l'intérieur de toi. Alors, la Bible dit, marchez par l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Or, verset 19, je disais, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles. Je vais vous développer ça et puis je vais arrêter par là pour aujourd'hui. Il catégorise ici, trois grandes catégories d'œuvres de la chair qui attirent la malédiction. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'il est dit dans Galates chapitre 6, D'abord, il dit ici que les personnes qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et ensuite, dans Galates 6, au verset 7, il dit, ne vous y trompez pas. Ce que tu sèmes dans ton cœur, tu le moissonneras. Si tu laisses semer dans ton cœur la parole qui vient du malin, tu vas le moissonner. On ne se trompe pas de Dieu. Et celui qui sème pour sa chair, moissonnera de sa chair la destruction. Ici, c'est écrit la corruption. Une autre version dit la malédiction. Attention. Alors, il classifie trois catégories. Que quelqu'un dise trois catégories. La première catégorie, je vous la décris rapidement et on va prier. Il faut que Dieu brise le joug de la malédiction ici aujourd'hui. Oh, si tu dis pas Amen, ça veut dire que tu n'as pas compris encore que c'est subtil. Dis Amen. Première catégorie dans les œuvres de la chair, il y a l'impureté. Dans Galates chapitre 5, au verset 19, à partir du verset 19, il dit les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Une autre version que vous avez dit, le dérèglement. Ici, le mot impudicité, c'est simplement le mot fornication. Fornication, c'est relation sexuelle hors du mariage. Il ne t'appartient pas, elle ne t'appartient pas, vous n'êtes pas lié par une alliance, c'est de la fornication. Ça, c'est une œuvre de la chair qui amène dans ta vie une malédiction. Mais pas que sur toi, elle amène ça également sur toute ta postérité. Je vais vous développer ça, pas ici, à l'école. Elle amène la malédiction. C'est pour ça que la Bible dit, fuyez l'impudicité. Fuyez. Ensuite, il dit l'impureté. Ici, dans la version anglaise, c'est le mot adultère. Tu es marié, mais... Enfin, tu as compris. Ensuite, il utilise le mot dissolution. Que quelqu'un dise dissolution. Ou encore dérèglement. Ça fait allusion à quoi? La plupart d'entre nous, on lit, on ne comprend pas. C'est le libertinage, le dévergondage ou encore les obscénités. Qu'est-ce que la Bible met dedans? La Bible met dedans la masturbation, la bestialité, l'homosexualité, toutes les sortes de perversions physiques, sexuelles. Donc là, dans cette catégorie, il y a trois prostitutions physiques. Et mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire une chose. Ce n'est pas la peine de venir devant Dieu pour dire, Seigneur, bénis-moi, je veux voir la bénédiction de l'Éternel se manifester dans ma vie, si tu n'es pas prêt à renoncer à ces choses. Tu te trompes toi-même. D'abord, je ne sais pas si tu as remarqué, mais ça fait longtemps que tu trimbales cette malédiction. Et si tu n'en as pas assez de trimbaler cette malédiction, ça te regarde. Mais moi, j'en ai assez. Et j'ai dit, Seigneur, nous voulons être une église bénie de la bénédiction de l'Éternel, parce que je me souviens que le but de la bénédiction, c'est d'accoucher la gloire. Donc s'il n'y a pas d'obéissance à la parole de Dieu, il n'y a pas la gloire. Alors tu peux chanter comme tu veux, adorer comme tu veux, il n'y aura pas de gloire. Parce que Dieu a dit, vous serez saints, car je suis saint. Dieu ne se déplace que là où il y a la sainteté. Il faut que quelqu'un le dise. Ensuite, il y a deux péchés de prostitution spirituelle. Le premier qu'il mentionne ici, c'est l'idolâtrie. C'est adorer des idoles, adorer les saints, adorer les stars, adorer toi-même. Je suis sur le trône de mon propre cœur. C'est ce qu'on appelle les narcissiques. Il est tellement rempli de lui-même que quand tu lui parles, dès que tu lui fais une remarque, ah, attention, je suis celui qui suis. Je suis quelqu'un de brillant. Il y a des gens qui s'adorent eux-mêmes. Quand il parle avec toi, dès qu'il t'approche, la première mélodie qui vient de lui, qui sort de sa bouche, c'est une mélodie à la gloire de son saint nom. De son propre nom, évidemment. J'ai regardé juste quelques minutes, après j'ai éteint la télé, sur France Arte, c'est ça? Un pasteur qui chante un hymne à la gloire de lui-même. J'ai dit à ma femme, bébé, arrête-toi la télé, c'est pas la peine. Ah non, ah, bon, écoute, il se fait appeler pasteur. Il chante un hymne à la gloire de lui-même. Au lieu de chanter un hymne à l'agneau de Dieu qui a été immolé pour les péchés du monde, il chante un hymne à la gloire de son propre nom. C'est des narcissiques. Ah, je vous assure, des fois Dieu est patient avec nous. Vraiment, des fois moi je rêve qu'on revienne dans l'Ancien Testament et que des fois on soit... Non. Pardonnez-moi, mais je hais certaines choses. Je hais lorsque l'homme est... Non, non. J'ai dit, Seigneur, ramène-nous au jour d'autrefois. là où tu... Dès que quelqu'un... Voilà, c'est même ça. Repose-toi toi aussi. L'idolâtrie. La prostitution spirituelle. Tu vas adorer. Derrière le mot idolâtrie, mettez la prostitution spirituelle. Tout ce qui est contemplation, vénération de fausses religions, d'idoles, de faux dieux, tout, je ne vais pas citer les noms ici, mais toute fausse religion, tout ce qui ne va pas à Dieu par Jésus-Christ, c'est une idolâtrie. Amen. Et ça attire la malédiction. Amen. On n'adore même pas les anges. On n'adore jamais un ange. Lisez Apocalypse. Les anges disent, ne m'adore pas, adore Dieu. Moi, je ne suis que la créature, adore le Créateur. Que quelqu'un dise Amen. Ensuite, il mentionne la magie. De Galates chapitre 5, verset 20. L'idolâtrie, après, il dit magie. C'est le mot grec pharmakeia. C'est la sorcellerie. C'est la tendance à vouloir trop contrôler les gens. Tendance à contrôler par l'intimidation, par la manipulation. C'est de la sorcellerie. Spiritisme, sorcellerie, magie noire, magie blanche, astrologie, tout ça, c'est des abominations, ça attire la malédiction. Ensuite, il y a la troisième catégorie. La troisième catégorie, c'est mauvais cœur, mauvais caractère. Regardez, dans Galates chapitre 5, après il mentionne les œuvres de la chair qui emmènent la malédiction. Regardez, vous allez vous rendre compte que ce sont les mêmes œuvres que vous retrouvez dans l'Ancien Testament, qui sont simplement le résultat de la haine envers son prochain. Il dit les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes et l'envie. 8. Je vous les lis de manière plus simple avec une autre version. La haine, la colère, la jalousie, les querelles, les divisions, les disputes, l'envie et les sectes. C'est-à-dire créer des castes, créer des groupes, créer des divisions, des différents types de groupes à l'intérieur d'une famille déterminée. Et ici, il dit, alors, la troisième catégorie, c'est les péchés d'appétit, les brogneries et les excès de table. Mais ce qui m'interpellait ici, c'est, je voudrais que tu te rends compte, mon frère, ma soeur, que plus de 50% des œuvres de la chair qui attirent la malédiction ne sont pas causées par ce que tu fais, sont causées par ce que tu es. C'est ça, hein? Parce que sur les 15, il y en a 15 au total mentionnés par Paul ici. Sur les 15, il y en a 8 qui concernent un mauvais cœur. Un mauvais cœur. C'est pas juste ce que tu fais. C'est pas juste pratiquer la fornication, l'adultère. Non. Ici, il dit la haine. Ça t'attire la malédiction. La colère, t'attire la malédiction. La jalousie, t'attire la malédiction. Toujours apprendre à vouloir te quereller avec les gens, ça t'attire la malédiction. Les divisions, t'attirent la malédiction. Les disputes, t'attirent la malédiction. L'envie, toujours convoiter ce que les autres ont. L'envie est une preuve d'incrédulité. Parce que l'envie veut dire que tu n'es pas sûr que Dieu va te bénir toi aussi. Envier les autres, ça veut dire que tu ne sais pas, que tu oublies que ton tour viendra. Envier les autres, ça veut dire considérer que ce que Dieu a donné à l'autre, en fait Dieu l'a pris chez toi pour le donner à autrui, donc c'est pour ça que tu envies. C'est une malédiction. Ce sont des traits de caractère qui viennent à l'origine d'un dire, d'une parole qui vient du diable et qui attire la malédiction. Voilà pourquoi la Bible dit, mon frère, ma soeur, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ce qui rend un cœur bon ou mauvais, c'est simplement la nature de la graine ou des semences qui sont plantées à l'intérieur de ce cœur. Le cœur est comme un champ. Il est neutre. Tout dépend des semences que tu mets à l'intérieur. Dieu dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé dans le champ de son cœur, il le moissonnera. Dieu dit que c'est toi qui sèmes. Quand tu vas me dire, mais non, mais ce n'est pas moi qui ai semé. Mais laisse-moi te dire une chose. En réalité, ce n'est pas toi, c'est le Satan. C'est Satan, le diable qui a semé. Mais le diable ne peut pas semer quelque chose dans ton cœur sans ta collaboration. Satan a besoin de ta permission pour polluer ton cœur. Voilà pourquoi Dieu te tient, toi, pour... responsable. Pour t'empoisonner, le diable a besoin de ta collaboration. Matthieu chapitre 15, verset 18 à 20. Voilà ce que dit Jésus. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères. C'est du cœur te viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, c'est-à-dire les fornications, les vols, les faux témoignages, les calomnies, etc. Verset 20, voilà les choses qui souillent l'homme. Voilà les choses qui souillent l'homme. Pendant que je préparais ce message, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit qu'il y a des gens ici, nombreux. Certains sont concernés par l'impureté, par la prostitution physique. D'autres sont concernés par la prostitution spirituelle. Il m'a dit que la majorité des gens qui n'expérimentent pas la bénédiction sont concernés par le mauvais caractère, par le cœur qui a été contaminé, qui a été souillé. Jacob avait deux enfants, Siméon et Lévi. Siméon et Lévi, les deux fils de Jacob, avaient droit à la bénédiction. Mais au moment de recevoir la bénédiction, à la mort de leur père, ils ont reçu une parole de malédiction. En fait, il ne les a pas maudits directement. Il a maudit leur caractère. Il a dit, maudit soit leur colère à Siméon et Lévi. Ils m'ont fait du mal. Maudit soit leur colère. Et je me suis demandé, pourquoi est-ce que Siméon et Lévi étaient aussi remplis de haine? C'était des gens qui n'avaient pas d'amour. Ils étaient remplis de haine. Et quand vous retracez leur histoire, vous allez vous rendre compte que Siméon et Lévi étaient les fils de Léa. Léa, c'était la première femme de Jacob. Léa est une femme mal aimée. Léa était la sœur de Rachel. Jacob a tourné ses regards vers Rachel. Léa a tout fait pour attirer l'attention de son mari, pour être aimée par son mari. Et malgré le fait qu'elle lui a fait des enfants, parce qu'elle se disait en lui faisant des enfants, il allait l'aimer, puisque sa sœur Rachel était stérile. Et Léa, malgré tout, Léa a été la mal aimée de son mari. Et Léa a grandi avec le rejet. Et lorsque vous faites grandir un enfant dans un environnement où maman se sent rejetée, les enfants vont développer la haine, la colère. Voilà ce qui se passe dehors dans les familles monoparentales. Si tu es mère, parent monoparental, mon frère, ma soeur, fais attention à ce que tu donnes à ton enfant. Fais attention à ce que tu donnes à toi-même. Fais attention à ce que tu laisses semer dans le champ de ton cœur. Refuse l'amertume. Refuse la haine. Refuse la colère, c'est une malédiction. Et la tristesse dans tout ça, c'est que tu es en train de subir une malédiction et tu es en train de garder de la haine et du ressentiment et de la colère envers quelqu'un qui a déjà continué sa route depuis longtemps. Il a continué. Il ne s'est même pas arrêté. Il ne fait aucun cas de toi. Si tu t'aimes au moins un peu, relève-toi et puis laisse partir la haine et la colère. Que quelqu'un dise amen. Ton caractère orageux ou cyclonique attire la malédiction sur ta vie. Et pendant que je faisais ce message, le Seigneur m'a convaincu qu'il y a quelqu'un qui en veut à son père, qui en veut à sa mère, ou qui en veut à son ancien mari, ou à son ancienne femme. Et ça remplit ton cœur de colère et de haine. Mais ça activait également la malédiction. Et ça neutralisait la bénédiction. Tu ne peux pas être béni. Tu ne peux pas voir se manifester dans ta vie. Tu peux chanter comme tu veux, rendre des témoignages comme tu veux, danser comme tu veux. Mais la bénédiction est suspendue dans ta vie à cause de ton mauvais caractère. Et chez beaucoup d'entre eux, je finis avec ça. Pour beaucoup d'autres personnes, ce mauvais caractère est héréditaire. Mais Dieu dit, ce n'est pas une excuse. Parce que le sang de Jésus a coulé pour briser le joug de la malédiction. Le sang de Jésus a coulé pour que tu sois une personne libre. Et je vais juste te donner un exemple dans la Bible d'une personne dont l'histoire est une bonne gifle à toutes les excuses que tu donnes à Dieu pour ne pas changer. Cette personne s'appelait David. C'était un enfant bâtard. Un bâtard, c'était un enfant dans la Bible qui était né dans un rapport sexuel hors mariage. C'était des gens sur lesquels la malédiction qui se répandait sur eux, la malédiction d'un enfant bâtard, la malédiction dans une relation adultère, ne se répandait pas jusqu'à 4 générations. Elle se répandait jusqu'à 10 générations. Je ne peux pas expliquer pourquoi. Deutéronome chapitre 23, je crois. David a été rejeté par son père. Il est abandonné par sa mère. Il est né enfant illégitime, donc non désiré. Mais la Bible dit que David est devenu l'homme selon le cœur de Dieu, le meilleur chantre, un passionné de Dieu, un adorateur, meilleur guerrier, meilleur adorateur. David est devenu tellement amoureux de Dieu que Dieu a changé son histoire. Et Dieu a changé l'histoire de sa postérité. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Tu vois, qu'importe comment tu as été né, qu'importe ce qu'on t'a fait endurer, qu'importe ce que tu as subi, je suis là, mon frère, ma soeur, pour te dire ce soir que la malédiction peut être brisée grâce à l'obéissance. Amen. Il suffit simplement de revenir à Dieu. Tu ne peux pas accuser ton papa, tu ne peux pas accuser ta maman. Il te suffit simplement de revenir au Seigneur. Parce que Satan ne peut rien faire sans ta permission. Le seul fait que ces choses soient dans ta vie, c'est du cœur que tout part. Même pour l'adultère, la fornication, le dérèglement, la dissolution, le libertinage, tout commence par le cœur. Si ton cœur a été souillé, tout le reste est souillé. Et tout ce que Dieu te demande de faire, c'est d'arrêter de donner des excuses et de revenir à lui. Il a dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alors mon frère, il a dit, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives. Inclinant la tête et prions. Je ne sais pas dans quel domaine tu te situes, mais si tu pratiques une de ces trois catégories d'œuvres de la chair que nous avons mentionnées, mon frère, ma soeur, ça veut dire que quoi que tu dises, quoi que tu pries, la malédiction du diable a été activée dans ta vie et la seule manière de la désactiver, c'est d'obéir. Les fils de Jacob ont reçu la malédiction à cause de leur caractère. Si tu changes de caractère, si tu changes d'œuvre, si tu changes de comportement, tu attires automatiquement à toi la bénédiction de l'Éternel. J'ai été choqué de réaliser qu'à l'époque, ils ne connaissaient pas la prière que nous connaissons aujourd'hui. Ils ne priaient pas les grandes prières, ils ne faisaient pas les grandes récitations que nous avons fait aujourd'hui. Mais ils avaient simplement compris que l'obéissance faisait toute la différence. Et que l'obéissance est une âme redoutable qui brise la malédiction. Et le jour où le fils de Jacob, Lévi, la tribu de Lévi, le jour, parce qu'ils ont transporté cette malédiction, le jour où Moïse est descendu de la montagne, lorsqu'ils ont fait le veau d'or, Moïse a dit à moi, ceux qui sont à l'Éternel, venez de mon côté. Les premières personnes à se déplacer, c'était les fils de Lévi. Et lorsqu'ils sont déplacés, et ils ont choisi d'obéir à l'Éternel, la Bible dit qu'en réalité, ils ont brisé la malédiction qui était liée à leur génération, à leurs ancêtres. Et ils ont activé la bénédiction de l'Éternel. Parce que simplement, ils sont revenus à l'Éternel. Le Seigneur me dit de te dire, si tu reviens à moi, si tu t'humilies, si tu pries, si tu cherches ma face, si tu te détournes de tes mauvaises voies, si tu cesses de donner des excuses en disant ce n'est pas ma faute, c'est à cause de mon papa, c'est à cause de ma maman, c'est la faute à mon mari, c'est la faute à ma femme. Je suis là où je suis parce qu'il m'a fait souffrir. Si tu sors de cette spirale d'échec et de malédiction, et si tu reviens en disant simplement, Seigneur, après tout, c'est mon cœur que j'ai laissé être pollué. J'aurais pu protéger mon cœur en obéissant ainsi à ta parole, mais je n'ai pas protégé. J'ai laissé, Seigneur, des paroles du malin influencer mes pensées, influencer mes émotions, influencer mon attitude et déterminer mon caractère. Je reviens à toi. Parce qu'en réalité, la malédiction n'est pas mon partage. La malédiction ne doit pas faire partie de mon histoire ni de celle de ma postérité. Je suis cette personne à partir de laquelle ces choses doivent changer. Si mon papa était colérique et que j'ai hérité de sa colère, si ma mère était amère et que j'ai hérité de son amertume et que cette amertume qui bousille mon propre foyer, Seigneur, ce matin, je n'ai pas l'intention de transmettre cela à mes enfants. Je n'ai pas l'intention de leur transmettre la haine et la rancœur et les frustrations que mon mari, mon ancien mari, m'a fait ressentir. Je veux leur transmettre l'amour et la bénédiction de l'Éternel parce que tu as dit dans ta parole que l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Ce n'est pas un héritage de malédiction, c'est un héritage de bénédiction, de distinction, de témoignage, de faveur à la gloire de ton Saint-Nom. Je reviens à toi ce matin, je m'humilie devant toi et je dis d'accord, je reconnais Seigneur, la haine, la jalousie, les envies, c'est une preuve d'incrédulité, c'est une preuve d'insécurité, c'est une preuve Seigneur que j'ai rien compris, j'étais immature. Ce matin, j'enlève mon masque et je viens devant le trône de grâce. Et je te dis tel que je suis, Seigneur, accepte-moi, pardonne-moi, Seigneur. Je ne veux pas prendre de raccourci parce que je reconnais qu'il n'y a pas de raccourci à l'obéissance parce que la parole déclare que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Je ne veux pas continuer de te chanter, de faire semblant de t'acclamer alors qu'en réalité, je sais au plus profond de moi que je suis sec. Sèche, c'est la sécheresse spirituelle, c'est la sécheresse émotionnelle, pas de joie, pas de paix, pas d'amour, et les symptômes de la malédiction ont commencé à être activés dans ma vie, je veux les désactiver ce matin, en revenant à toi, je ne m'en prendrai pas au diable, parce que je reconnais qu'en réalité, si la malédiction agit, c'est parce qu'elle a une base, elle a une cause qui lui permet de rester, Seigneur. Et cette cause n'est pas le diable, cette cause c'est moi qui ai laissé faire quelque chose au diable. Mais ce matin, je reprends mon identité, je retrouve mon identité, je reprends, Seigneur, mes responsabilités, je reprends les rênes de ma destinée, je refuse la haine, je refuse le manque de pardon, je refuse les offenses, je refuse les blessures. Je ne veux pas maudire ma vie alors que, Seigneur, cette personne qui m'a fait du mal a continué sa route de l'autre côté et qu'elle réussit ce qu'elle fait. Non, je renonce à la haine. Je renonce à la colère. Je viens devant toi, Seigneur. Tel que je suis. Tel que je suis. J'ai dit oui à la bénédiction. Oui à la délivrance. Oui à la guérison. Je dis à ta guérison. À ta puissance qui brise les jougs maintenant. Le joug de la prostitution physique, prostitution spirituelle, mauvais caractère. Je renonce. Et je dis oui à la vie de Dieu. Oui au caractère de Christ. Oui au cœur de Jésus-Christ. Oui au cœur de Dieu. Oui à l'obéissance, oui à la sainteté, oui à la pureté, je dis oui à ta parole, je dis oui à la délivrance ce matin, je dis oui Seigneur, tu délivres ma vie des chaînes dans le nom de Jésus, je dis oui Seigneur, oui à la vérité, oui à la pureté, oui à la sainteté. Oui à ton amour, je renonce à la haine, je renonce à la colère. Je dis oui, Seigneur, je dis oui. Je dis oui à ta fécondité, Seigneur. Je dis oui à ta productivité. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui. Satan, le sang parle contre toi. Le sang de Jésus-Christ n'a pas coulé en vain. Le sang de Jésus, par le langage de victoire, par le langage de triomphe. Et je vois le triomphe, je vois la gloire de Dieu. Et cette gloire commence avec la bénédiction de l'Éternel sur ma vie. Ma vie reflétera la gloire de Dieu. Elle reflétera la gloire. Elle reflétera la gloire. Je dis oui à ta parole, à la parole de Dieu. C'est la parole dont je me nourris. C'est la parole dont je me nourris. Je dis oui. Je dis oui. Je ressentirai désormais la présence de Dieu. J'accepte, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, de marcher par l'esprit et d'être libéré des désirs de la chair. Je ne marcherai plus par la chair. Parce que j'ai compris que marcher par la chair équivaut à marcher pour sa propre autodestruction. Marcher pour la corruption et pour la mort, ce n'est pas mon partage. Mon partage, c'est la vie, Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je décrète, Seigneur, pour celui qui a reçu cette parole, pour celui qui accepte de se mettre devant toi, d'enlever son masque, je déclare pour cette personne la bénédiction de l'Éternel, Seigneur, qui avait été suspendue et réactivée. Parce que tu as dit dans ta parole, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et qui les délaisse, qui accepte de s'en séparer, qui accepte de les laisser derrière lui et de courir vers l'avant, celui-là, celle-là, obtient la miséricorde, obtient la faveur, obtient la guérison, obtient la restauration. Et Seigneur, ce matin, je déclare, là où il y avait une maladie cachée, où une maladie s'était greffée à cette malédiction, parce que mon frère, ma soeur s'est humilié et a obtenu miséricorde, nous ordonnons, nous décrétons ce matin que la guérison physique soit maintenant manifestée dans le nom de Jésus. Parce que mon frère, ma soeur a accepté de s'humilier, de se détourner de ses mauvaises voies. Tu as dit dans ta parole, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai des cieux et je guérirai. Non seulement tu exauces, mais tu guéris. Tu guéris le pays, tu guéris le corps, tu guéris la famille, tu guéris le foyer, tu guéris le mariage, tu guéris maintenant. Restauration, restitution totale dans le nom de Jésus. Cette parole court, elle agit avec rapidité. Elle ne reviendra pas à nous sans effet, sans avoir accompli le but pour lequel elle a été envoyée. Tu donnes des ordres maintenant. Là où il y avait le chaos, nous appelons maintenant la restauration, l'ordre. Là où il y avait le chaos, là où il y avait le désordre, nous commandons que l'ordre soit, que la paix soit là où il y avait la confusion, que la résistance soit là où il y avait la tristesse, dans le nom de Jésus. Que Seigneur, là où il y avait le désert, la sécheresse, tu ne sentais pas la présence de Dieu. À partir d'aujourd'hui, tu ressentiras l'étreinte de sa présence. Tu sentiras sa présence te blottir, ses bras d'amour te combler. Tu entendras sa voix te dire, je t'aime. Tu es racheté, tu es précieux. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Tu n'entendais pas cette voix. Désormais, tu l'entendras parce que tu as choisi de revenir à l'Éternel, ton Dieu. Béni sois-tu. Cette parole ouvre maintenant. Élevant les mains vers le ciel. En signe d'abandon, élevant. Je scelle tes paroles par le sang de Jésus-Christ. Elles ne reviendront pas sans effet. Tes paroles prennent vie maintenant. La bénédiction est réactivée. La malédiction out, dehors. À partir d'aujourd'hui, nous obéirons au son de la voix de l'Éternel. Et personne ne pourra empêcher ta gloire, alors ta véritable gloire, ton éclat, ta splendeur, ta beauté, ta distinction, ton rayonnement. Personne ne pourra l'empêcher de se manifester. Parce que Seigneur, dans nos cœurs, nous aurons planté la parole de Dieu. Et nous aurons jeté dehors la parole du malin. À toi, qui commence cette œuvre aujourd'hui, et qui l'achèvera d'ici quelques semaines, et tout le courant de l'année 2007, nous verrons des cascades de manifestations de gloire. À toi qui l'a commencé et qui l'achèvera, nous disons sois honneur, sois louange, la gloire, l'acclamation. Oh, non pas l'applaudissement, j'ai dit l'acclamation. Faites ton cœur vers l'Éternel, écris de joie, poussons vers l'Éternel, écris de joie, des acclamations, des acclamations, des acclamations. J'ai dit un acclame, je n'ai pas dit d'arrêter d'acclamer. J'ai dit acclamant, poussons vers l'Éternel des acclamations. Puissance de majesté, louange à sa majesté. Ne vont pas de tremble aujourd'hui, ne vont pas de tremble, les océans en musique, au son de sa voix. Il a béni, personne ne maudira. Il a béni, personne ne maudira. Je me suis humilié, je me suis repenti. Plus personne ne pourra empêcher la manifestation de ta gloire dans ma vie. Je suis émerveillé, je veux t'aimer. Voilà pourquoi je veux t'aimer. Tu es digne de mon amour, de ma reconnaissance. Rien n'est précieux dans ma vie. Si je n'ai ta parole. Béni sois-tu, Seigneur. Tu mérites que nous poussions vers l'Éternel. Nous poussions vers l'Éternel des cris de joie. Bless you, God. Bless you. Et bless you. Des chaînes le font, des jougs l'ont détruit, des fardeaux sont retirés.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.